Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8 heures à Kouri, à la frontière Mali-Burkina, dans le cercle de Yoroso, même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Monsieur Dan, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. Des milliers de Maliens de la diaspora ont dénoncé ce week-end les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Cependant, des observateurs craignent que ces mouvements risquent d'envenimer la situation entre le Mali et la CEDEAO. Des centaines d'écoles fermées du fait de l'insécurité et des grèves à répétition. C'est dans ce contexte qu'intervient ce lundi 24 janvier la Journée mondiale de l'éducation. Face à la situation, des parents d'élèves demandent aux autorités de prendre des dispositions. C'est parti pour la 7e édition du Festival culturel Ogobagna. Cette année, le thème est « La place de la femme dans la société traditionnelle ». Les organisations ont mis un accent particulier sur la lutte contre la COVID-19. À la présentation, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Nuhum Djiri. Des milliers de Maliens de la diaspora se sont mobilisés samedi dernier dans leur pays d'accueil pour dénoncer des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Il s'agissait également, selon les organisateurs, d'apporter leur soutien aux autorités de la transition. Des rassemblements ont eu lieu à Ouagadougou, en Mauritanie, Paris, Bruxelles et Berlin, mais aussi une caravane à Bamako, initiée par le mouvement Yeraoulo Debout sur les remparts. Certaines manifestations ont été dispersées par les forces de l'ordre dont Ouagadougou au Burkina Faso. Jusqu'où cette mobilisation populaire va-t-elle s'arrêter? Les détails avec Imiranaki Lomaïga.
Pour certains politologues, cette mobilisation populaire consiste à mettre la pression sur les chefs d'État de la CEDEAO à revoir ses sanctions à l'encontre du Mali. Par ailleurs, elle pourrait contribuer à alimenter la tension entre les deux partis. Balandia Kité, politologue.
Jusqu'ici, on n'a pas une uniformisation ou une uniformité des avis, tant au niveau malien qu'au niveau de la CEDEAO. C'est vrai que les chefs d'État de la CEDEAO ont essayé d'affirmer une position commune jusqu'ici, mais force est de constater que les États membres de la CEDEAO n'ont pas tous les mêmes intérêts vis-à-vis du Mali.
Pour sa part, Brahima Mamadou Kone, enseignant-chercheur, a déclaré que ce sont des mobilisations qui ne s'inscrivent pas dans la durée et dans le temps. Toutefois, il précise que ce rassemblement s'explique par la montée en puissance de l'armée sur les théâtres des opérations.
La transition aujourd'hui a ce qu'on appelle une légitimité populaire. Et cette légitimité populaire s'exprime par le fait qu'ils ont posé des actes forts par rapport à la sécurisation du pays, qui tient aujourd'hui à faire l'ensemble des citoyens maliens pour arrêter ce bain de sang. Si on continue comme ça dans une année, on peut sans risque se tromper, dire qu'on pourrait vraiment sécuriser l'ensemble du territoire national.
Par ailleurs, une journée nationale de prière pour la nation a été organisée hier dimanche par l'Association de groupements d'églises et missions protestantes évangéliques. Mali.
Réagissez à toutes ces informations sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Une mutinerie a éclaté hier dimanche dans les camps militaires à Ouagadougou au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé, dans un communiqué, a démenti une prise de pouvoir par l'armée. Toutefois, il a reconnu l'effectivité de tirs dans certaines casernes. Par ailleurs, il a appelé les Burkinabés à rester sereins. Dans la journée d'hier, le réseau Internet a été interrompu et la ligne téléphonique a connu quelques désagréments, de même que le programme de diffusion de la télévision nationale. Sur un tout autre sujet, au moins 7 ressortissants mauritaniens ont été tués le 17 janvier dernier entre Tarabakoro et Accor dans la région de Nara. Pour le moment, les raisons de cet incident sécuritaire ne sont pas connues. Mais le président mauritanien a dépêché samedi une délégation ministérielle à Bamako. Au même moment, un militaire français a été tué dans une attaque de roquettes à Gao. Les détails avec Assetou Kanté.
Le chef de la mission mauritanienne reçue à Kati par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a indiqué qu'il est important de discuter des stratégies à renforcer la coopération afin d'éviter ce genre d'incident. Selon lui, des stratégies qui consistent aux citoyens de traverser les frontières tous les jours sans difficulté dans un système coordonné. Pour sa part, le gouvernement décline toute responsabilité des forces armées dans l'assassinat des 7 Mauritaniens avant d'annoncer l'ouverture d'une enquête transparente. Par ailleurs, un militaire français a été tué samedi à Gao dans une attaque au mortier. L'information a été confirmée par le chef d'état-major des armées françaises dans un communiqué. Le document précise que 9 autres ont été légèrement blessés.
Sur un tout autre sujet, le Mali célèbre ce lundi 24 janvier la Journée internationale de l'éducation. Le thème de cette année est « Changer de cap ». Transformer l'éducation. Elle intervient dans un contexte où des écoles sont fermées à travers le pays du fait de l'insécurité. À cela s'ajoute la multiplication des grèves des enseignants. Des parents d'élèves dénoncent la situation. Ils demandent aux autorités de prendre des mesures idoines. Le point avec Mamadou Samaseku.
Notre école ne répond pas du tout à nos besoins, déclare l'association des parents d'élèves du Mali, APE. Pour son secrétaire général adjoint Daouda Sakho, l'école malienne mérite mieux que le sort qu'elle subit actuellement.
Nous avons beaucoup longtemps oublié notre école. La qualité de nos enseignements, la qualité de nos écoles, la qualité de la formation de nos enseignants, l'instabilité sur le front scolaire et universitaire. Tout ceci sont des mots qui minent notre école et qui font que notre école ne répond pas du tout à nos besoins.
Comme réforme, Mourika Dembélé, spécialiste de l'éducation, propose qu'on décolonise les esprits comme l'avait souhaité les pères de l'indépendance du Mali en 1962.
Il faut que notre école soit totalement décolonisée pour qu'elle corresponde à notre personnalité et qu'elle puisse nous permettre de nous développer de manière endogène. On le sait depuis un certain temps, l'école publique au Mali a cessé d'exister. Donc, il faut discuter des conditions de retour de l'école publique républicaine.
Notons que selon des statistiques de la dernière décennie, plus de 2 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans ne vont pas à l'école et plus de la moitié des jeunes de 15 à 27 ans sont analphabètes au Mali.
Un sujet signé Mamadou Samaseku. Parlons de culture. La 7e édition du festival culturel Dogon, dénommé Ogo Banya, s'ouvre ce lundi 24 janvier sur les berges du fleuve Niger à Bamako. Cette 7e édition a pour thème la place de la femme dans la société traditionnelle. Plus de 1000 festivaliers sont attendus. Ce festival intervient alors que le pays est sous embargo de la CEDEAO. Le point avec Mohamed Ali Ag Aleida.
Sur la place du cinquantenaire, les premiers exposants occupent déjà les lieux. Selon certains, c'est une manière de montrer la culture malienne au public.
Moi, je viens de Banyangara. Malgré l'embargo, nous, on veut accompagner notre pays.
Cette année, vu la situation, je demande à la population malienne de venir montrer leur culture. Et ce que nous faisons ici, c'est ça qui peut nous sauver.
Pour les organisateurs, cette 7e édition de Ogo Banya sera riche en activités malgré la situation actuelle du pays. Ousmane Dolo, membre du comité d'organisation du festival.
Comme activité, il est prévu la conférence, les expositions, il y a aussi les concerts, la sortie des masques, les soirées traditionnelles, il y a aussi l'allée traditionnelle. Il y aura des surprises aussi cette année.
Cette édition coïncide avec une flambée des cas de Covid-19. Les organisateurs rassurent que des mesures ont été prises. Ousmane Doulou.
Il y aura des médecins permanents sur les sites pour ceux qui veulent se faire vacciner. Et pour le dépistage, les kits de lavage à main, ça s'est placé dans tous les coins. Site. À la rentrée aussi, il y aura des agents placés pour utiliser les gels anti-Covid. À l'entrée, sans les masques, ce n'est pas possible.
Notons que 154 stands sont installés sur le site. Des produits artisanaux, alimentaires et de la pharmacopée traditionnelle sont exposés.
Retour sur les événements du Burkina Faso. Selon des sources concordantes, l'arrestation du président Roch Marc Christian Kabore a été arrêté par les mutins. C'est à la suite des mutineries qui a éclaté dans plusieurs casernes de Ouagadougou dans quelques villes de province. Les militaires qui l'ont arrêté devraient faire une déclaration dans les prochaines heures. Continuons avec le cours normal de cette édition pour parler de l'évolution de la maladie à coronavirus. À la date du dimanche 23 janvier, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 80 nouveaux cas positifs, 155 patients guéris et un décès. La situation cumulée à ce jour est de 29 660 positifs pour 25 388 patients guéris et 705 décès. À présent, place à la rubrique Actu Covid, une présentation de Khalifa Goïta.
Actu Covid. Suivez l'actualité sur le Covid-19 au Mali.
La mobilisation nationale contre les sanctions de la CEDEAO a eu lieu le 14 janvier 2022 dans un contexte marqué par une augmentation des cas de coronavirus. Plus d'une semaine après, des spécialistes de la santé disent craindre une nouvelle flambée des cas de Covid-19. Ils exhortent les populations à faire le test de la Covid-19. Professeur Daouda Kassou, membre du comité scientifique Covid-19 du Mali, est joint au téléphone par Khalifa Goïta.
D'abord, vous savez, il faut pour cette occasion féliciter le personnel de santé du centre de santé de référence de la commune 3 qui faisait une distribution des masques. Les solutions hydroalcooliques étaient à la portée des marcheurs. L'autre partie, c'est que même si les gens étaient contaminés, il y en a là qui seront des porteurs sains, qui ne vont pas manifester. Et puis parmi tous ces marcheurs, c'est sûr qu'il y a une proportion quand même de vaccinés. Le troisième point, c'est que même si les gens sont symptomatiques, combien de gens consultent au constat du signe? Voilà un peu les quelques éléments qui peuvent expliquer la non-explosion.
Les experts COVID disaient à ce genre de rassemblement, il faut attendre 2 semaines pour pouvoir s'attendre à des cas d'explosion. Est-ce que c'est toujours le cas?
Ce n'est pas éliminé, c'est ce que je vous ai dit. Il ne faut pas tout de suite crier victoire, il faut attendre. Nous ne le souhaitons pas. Comme je vous l'ai dit, quand vous voyez quelqu'un consulter dans les établissements, c'est qu'il est dans un état de détresse. Sinon, il se soigne. Faites un sondage pour dire qu'après toute cette grande marche-là, quels sont ceux-là qui ont constaté un syndrome infectieux? Il faut absolument prendre des dispositions contre l'automédication. Vraiment, au vu des symptômes, allez assez dans les établissements sanitaires, faire des prélèvements pour qu'on sache que vous êtes infecté ou non.
À présent, écoutons la question d'auditeur du jour, puis la réaction de Dr Boubacar Sidiki Dramé, point focal COVID-19 à l'hôpital du Mali.
Faut-il porter un masque quand on fait du sport?
On n'est pas obligé, sauf si les conditions du sport nous l'exigent. Vous êtes tout seul, vous n'êtes pas obligé de porter le masque, ce n'est même pas nécessaire. Le sport cherche quelque chose et les cellules ont besoin d'une bonne oxygénation. Et le masque va vous priver de cette bonne oxygénation. Sauf si vous êtes contraint de porter le masque parce que vous rentrez dans un sport où il y a le contact physique, il y a le rapprochement avec d'autres personnes dont les statuts sont les mêmes, alors il faudrait porter votre masque.
Ainsi se referme ce bulletin d'information de Studio Tamani sur la COVID-19. Studio
Tamani. Parlons à présent de sport. Cannes-Cameroun 2021. Les matchs des huitièmes de finale ont démarré ce dimanche. Ils se poursuivront jusqu'au mercredi prochain. Le Burkina Faso et la Tunisie sont qualifiés pour les quarts de finale à l'issue des confrontations d'hier soir. Les Aigles du Mali rentrent en lice le mercredi prochain face à la Guinée équatoriale. Par ailleurs, ce week-end, la Confédération africaine de football CAF a effectué le tirage au sort zone Afrique des matchs de barrage d'accès à la Coupe du Monde de Qatar 2022. Les détails avec Khalifa Kouita.
Ce sont les étalons du Burkina Faso et les Panthères du Gabon qui ont ouvert le premier match de cette phase de la compétition ce dimanche. Un but partout dans le temps réglementaire. Après prolongation, le Burkina est venu à bout du Gabon dans les tirs au but 7-6. Le deuxième match de la soirée a vu la victoire de la Tunisie contre le Nigeria sur le score d'un but à 0. Ce lundi, la Guinée-Conakry jouera contre la Gambie à 16h. Et à 19h, le pays organisateur, le Cameroun, tentera de sortir le meilleur jeu devant son public face aux Comores. À noter que l'équipe des Comores est touchée de plein fouet par la COVID-19. Le Mali, qui a terminé premier de son groupe dans la phase des poules avec 7 points, jouera contre la Guinée équatoriale ce mercredi à partir de 19h. Tout comme lors de la CAN 2021, le Mali et la Tunisie vont s'affronter une nouvelle fois en match de barrage pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Le duel de cette double confrontation entre le Mali et la Tunisie aura lieu entre les 21 et 29 mars. Le match aller est prévu à Bamako.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga, nous on dirait assurer la technique. Mais avant, je vous rappelle cette information. Des sources locales indiquent l'arrestation du président burkinabé Roch Marc Christian Kabore après les mutineries qui ont éclaté hier dans plusieurs casernes de Ouagadougou et dans quelques villes de province. Les militaires qui l'ont arrêté devraient faire une déclaration dans les prochaines heures. Ne décrochez pas car l'info continue. Intégrer la protection de l'environnement dans les programmes scolaires maliens, étudier la faisabilisation d'un fonds national de l'environnement et élaborer des indicateurs juridiques sur l'effectivité des textes régissant l'environnement. Voici entre autres les recommandations faites par les Assises nationales pour la refondation sur la protection de l'environnement. Les spécialistes de l'environnement saluent ces résolutions et exhortent les autorités à leur mise en œuvre. Ce magazine est une production de Fatih Attara.
Le magazine parlant de l'environnement.
Pour protéger l'environnement, les Assises nationales de la refondation recommandent
assurer l'effectivité de toutes les réglementations nationales et les conventions internationales ratifiées par le Mali en matière d'assainissement et de protection de l'environnement. Étudier la faisabilité pour le développement d'une fiscalité écologique. Étudier la faisabilité pour la création d'une agence de gestion des déchets. Trouver des activités de diversification comme alternative à la coupe abusive du bois.
Ces résolutions ont été retenues dans le rapport final des concertations nationales pour prévenir les effets du changement climatique. Protéger l'environnement et lutter contre sa dégradation, nous explique Hinna Hammar Haidara, membre de la commission d'organisation des Assises de la Refondation.
Depuis un certain nombre d'années, nous sommes dans des phases cycliques de sécheresse qui ont pour conséquence essentielle la désertification, c'est-à-dire la détérioration du couvert végétal, mais aussi, l'ensablement de nos cours d'eau, et avec tout ce que ça comporte comme conséquence. Qu'il y a moins de 5% de nos ménages au Mali qui n'utilisent pas l'énergie bois. Donc, et face à cette situation, les ressources ligneuses en pâtissent. Bon, ensuite, vous savez qu'il y a des gros problèmes au niveau des grands centres urbains, des problèmes de pollution, parce que nous avons même des problèmes de dépôts finaux au niveau de la ville de Bamako et au niveau de toutes les grandes villes.
Pour lui, ces recommandations vont pousser les citoyens et les autorités à faire de la protection de l'environnement une priorité. Il ajoute qu'en plus des facteurs naturels de dégradation de l'environnement, il existe aujourd'hui de nouveaux phénomènes tels que l'insécurité et l'insuffisance d'effectifs des gardes forestiers qui freinent les efforts de protection de l'environnement.
Et vous savez qu'une bonne partie de notre territoire aujourd'hui sous la menace de l'insécurité, ce qui veut dire que même les agents qui sont chargés du contrôle de l'exploitation de nos ressources ne peuvent même pas accéder à ces territoires-là. Donc ça, c'est déjà un gros problème. En dehors même de l'insécurité, le nombre d'agents des eaux et forêts est largement insuffisant pour couvrir l'ensemble du territoire.
De leur côté, des environnementalistes saluent les résolutions faites et fondent l'espoir sur leur application. Zoumana Koulibaly, environnementaliste.
Ça, je pense bien que c'est des bonnes recommandations qui peuvent être mises en œuvre, surtout qu'auparavant, il y avait d'autres recommandations relatives surtout aux réformes institutionnelles dans ce domaine-là. Proposer une nouvelle architecture institutionnelle, c'est-à-dire comme l'AEDD, les faire rattacher à un niveau supérieur de décision pour que toutes ces recommandations puissent être appliquées. Moi, je garde bon espoir.
Cependant, ces spécialistes indiquent que certaines recommandations faites pour la protection de l'environnement sont certes ambitieuses, mais pas impossibles à réaliser.
Ces recommandations n'ont pas été réfléchies à mon sens, à ma compréhension pour une seule année. C'est des recommandations qui sont faites pour faire l'état de la situation environnementale en République du Mali et voir comment on peut agir à court terme, c'est-à-dire dans un temps bien court, qu'est-ce qu'on peut réaliser et qu'est-ce qu'on peut réaliser à un temps moyen et qu'est-ce qu'on peut réaliser à long terme. Donc, j'ai compris dans ce sens et j'ai bon espoir que parmi les recommandations, certaines actions peuvent être menées à court terme, notamment le volet concernant la communication environnementale. Parce que vous saviez, dans nos écoles, il suffit de demander à l'éducation d'intégrer ces recommandations de communication sur la protection de l'environnement pour que cela soit une réalité.
Ces experts insistent pourtant sur l'urgence de la mise en œuvre de ces recommandations. Ils préviennent que si les résolutions et les dispositions faites au cours de ces assises ne sont pas mises en œuvre dans quelques années, la sécheresse, les inondations et les effets du changement climatique seront de plus en plus accentués et catastrophiques. C'est la fin de ce numéro de notre magazine Parlons de l'environnement. Il a été produit et présenté par Fatia Tara. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre numéro de Parlons de l'environnement.